Chapitre 9. Le lundi matin, Dwayne McBride se réveilla à l'aube et, l'esprit encore embrumé de sommeil, pensa à tout ce qu'il devait faire à la ferme avant d'aller attendre l'autobus scolaire au bout du chemin. Puis il se rappela que c'était les vacances, le premier lundi des vacances d'été, et que plus jamais il n'irait à Old Central. Il se sentit tout léger et monta au rez-de-chaussée en sifflotant. Son père lui avait laissé un mot. Il était parti de bonne heure prendre son petit déjeuner au Parkside Café avec quelques copains, mais il serait de retour en début d'après-midi. Dwayne accomplit ses tâches matinales habituelles. La collecte des œufs dans le poulailler lui rappela l'époque où tout enfant il était terrorisé par les poules, mais cela restait quand même un bon souvenir, un des rares qu'il eut de sa mère. Encore ne se rappelait-il qu'une silhouette en tablier à pois et une voix chaleureuse. Après un petit déjeuner composé de 2 œufs, de 5 tranches de bacon, de toast, de céréales et d'un beignet au chocolat, il se sentit prêt à se remettre au travail. Il fallait nettoyer la pompe de l'abreuvoir d'une des pâtures et en changer la poulie. Le téléphone sonna. C'était Dale Stewart. Il lui annonça l'accident de Jim Harlan, puis, comme Dwayne ne faisait aucun commentaire, il ajouta « Mike O'Rourke veut qu'on se réunisse dans son poulailler à 10 heures. » « Et pourquoi pas dans mon poulailler ?»« Mais dans ton poulailler, il y a des poules. Et en plus, il faudrait qu'on fasse tout le chemin jusqu'à ta ferme en vélo. »« Je n'ai pas de vélo, moi. Et c'est bien à pied que je me déplace. Pourquoi ne pas nous réunir dans notre cachette sous le pont ?»« À la grotte ?»
Dwayne sentit l'hésitation dans sa voix. Lui-même n'avait pas trop envie de retourner là-bas ce jour-là.
« Ok. Je serai là vers 10 heures. »
Après avoir raccroché, Dwayne pensa un instant à tout le travail qui lui resterait pour l'après-midi s'il passait la matinée dehors. Enfin, il se munit d'une barre de chocolat pour la route et sortit. Vite était dans la cour, il agitait la queue avec enthousiasme. Cette fois, Dwayne n'eut pas le cœur de le laisser. Le ciel était couvert, il faisait moins chaud, le collet apprécierait la promenade. Il retourna à l'intérieur, emplit ses poches de biscuits pour chiens, prit une autre barre de chocolat en guise de déjeuner et descendit le chemin. Dwayne apprécia la fraîcheur de l'ombre en bas de la colline, mais il sua à grosses gouttes dans sa chemise de flanelle en montant la côte jusqu'à la taverne de l'Arbre Noir. Il y avait quelques automobiles garées devant le troquet, mais il ne vit pas le pick-up de son père. Le petit déjeuner au Parkside Café devait se poursuivre chez Carl. Le garçon et son chien étaient dans Jubilee College Road lorsque les nuages commencèrent à se dissiper et le château d'eau se mit soudain à trembler comme un mirage. Dwayne regardait les rangées de maïs de chaque côté de la route. Chez lui, elles mesuraient quelques centimètres de moins. Il s'approcha pour voir sur les étiquettes fixées au grillage de quelle variété il s'agissait. Le soleil tapait dur maintenant et Dwayne se traita d'idiot. Il n'avait même pas pris sa casquette. Vite trottinait, le nez au sol, s'attardant de temps en temps sur une odeur intéressante et zigzagant dans les hautes herbes poussiéreuses du fossé qui longeait la route. Dwayne était à moins de 400 mètres du château d'eau et de l'entrée du bourg lorsque surgit le camion. Il le sentit avant de l'entendre. Ce ne pouvait être que le camion d'écarissage. Vite flaira l'air et leva ses yeux myopes. Dwayne l'attrapa par le collier et le tira sur le côté de la route. Les camions étaient une plaie lorsqu'il marchait dans ce coin. La poussière lui restait dans les yeux, la bouche et les cheveux pendant des heures. Si trop de véhicules le doublaient, il serait peut-être même obligé de prendre un bain un de ces jours. Debout à la lisière du bas-côté, Dwayne remarqua que le véhicule allait très vite. C'était bien le camion d'écarissage, le seul de la région à avoir une cabine rouge et une plateforme fermée par des lattes, mais comme le pare-brise reflétait l'éclat du soleil, on ne pouvait pas voir qui était au volant. Non seulement le chauffeur conduisait son engin à 90 ou 100 km à l'heure, mais encore il ne roulait pas au milieu de la route, comme presque tout le monde le faisait ici. Dwayne ne tenait pas à se faire asperger de gravillon, il recula et tira vite tout au bord du fossé. Le camion obliqua à droite, chargeant à travers les hautes herbes directement sur Dwayne et son chien. Le jeune garçon ne prit pas le temps de réfléchir. D'un seul mouvement, il se baissa, saisit vite et sauta par-dessus le fossé pour venir se plaquer contre la clôture. Il eut du mal à maintenir contre lui le collet terrorisé. Le camion les manqua de quelques dizaines de centimètres, les couvrant de poussière, de gravillons et de chaume. Lorsque le chauffeur braqua à gauche pour remonter sur la route, Duane eut le temps d'apercevoir les cadavres de plusieurs vaches, d'un cheval, de deux porcs et de quelque chose qui ressemblait à un chien blanc. « Espèce de salaud !» marmonna Duane. Il jurait rarement, mais cette fois, cela le soulagea. « Sale bougre d'enculé !» Vite gémissait dans ses bras. Le vieux chien était lourd et son cœur cognait dans sa poitrine. Duane en sentait les battements contre son avant-bras. Il sortit des hautes herbes, s'arrêta sur la route, posa vite à terre et le rassura avec des caresses et des paroles apaisantes. « Tout va bien, vite, t'inquiète pas. Ce merdeux de couillon d'imbécile de 25 nous a pas fait de mal en fin de compte. Pas une seule égratignure. » Le chien se calma, mais Duane sentait toujours les battements de son cœur. En fait, trop occupé à soulever vite et à reculer dans la clôture, Duane n'avait pas reconnu le chauffard. Mais il était certain que c'était bien ce cinglé de gardien ramasseur de cadavres qui était au volant. Très bien, il allait lui faire de la publicité. C'était une chose d'effrayer un groupe de gosses en jetant un cadavre de singe dans une mare, mais c'en était une autre d'essayer délibérément d'écraser un enfant. Car Van Syck, si c'était lui, avait bel et bien tenté de le tuer. Il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, d'une sorte d'avertissement dément. Le camion s'était vraiment dirigé droit sur Duane. Si le véhicule avait pris le fossé à cette vitesse, il se serait certainement retourné. C'était la seule raison pour laquelle le conducteur n'avait pas osé continuer sur sa lancée. « Un passant aurait trouvé mon corps dans les herbes et celui de Vite. Et personne n'aurait jamais su qui a fait ça. Un chauffard anonyme ayant pris la fuite après avoir heurté un gamin imprudent. » Il se tâta le dos avec la main et vit ensuite qu'elle était couverte de sang. En plus, il avait deux grands accros dans sa chemise, il serait obligé de la recoudre. Il continua à rassurer Vite, mais à présent, il tremblait encore plus fort que lui. Il chercha dans sa poche un biscuit pour chien et sortit aussi une barre de chocolat. Le camion d'écarissage réapparut au tournant du château d'eau. Duane se leva, les yeux exorbités, et il en oublia de mâcher son chocolat. Aucun doute, c'était bien lui. Il voyait clairement la cabine rouge et le gros pare-choc avant, suivi d'un nuage de poussière. Il roulait moins rapidement que tout à l'heure, mais il faisait encore un bon 50 km/h. C'était assez vite pour les écraser tous deux sans coup férir avec son poids de 3 tonnes.
« Oh merde !»
Vite gémit et tenta de lui échapper. Duane le traîna de l'autre côté de la route comme pour se diriger vers les champs. Le fossé était plein de broussailles, mais très peu profond de ce côté-là. Cela ne constituait pas vraiment un obstacle pour un véhicule de cette taille. Le camion d'écarissage braqua à droite. Maintenant, il avait parcouru presque la moitié de la distance le séparant de l'enfant et du chien, et Duane pouvait distinguer la silhouette du conducteur dans la cabine, un homme de haute taille, penché en avant, concentré sur la route et sur sa proie. Duane tirait toujours son chien, mais la pauvre bête, les pattes raides de terreur, labourait le sol de ses griffes. Duane le projeta dans le fossé. Le camion d'écarissage bifurqua à gauche, quitta la route, traversa le bas-côté et le fossé, les roues au ras de la clôture. Le gros pare-choc projeta de l'herbe devant lui et un nuage de poussière s'éleva dans l'air. Duane jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, espérant contre tout espoir qu'un autre véhicule allait arriver en sens inverse, que quelqu'un allait intervenir, qu'il allait se réveiller. Le camion n'était pas à plus de 25 mètres et semblait accélérer. Duane n'avait plus le temps de retraverser avec Vite, et même s'il y arrivait, le camion pourrait les avoir pendant qu'ils escaladeraient la clôture. Vite aboyait, se débattait, essayant dans son épouvante d'attraper le poignet de son maître. Pendant une fraction de seconde, Duane se demanda s'il ne ferait pas mieux de lâcher son chien. Il se débrouillerait peut-être mieux tout seul. Mais même éperonné par la terreur, Vite n'avait aucune chance de s'en tirer. Il était trop lent et ne voyait pas assez clair. Le camion était à moins de 15 mètres maintenant et se rapprochait toujours. Sa roue avant gauche heurta un piquet de clôture pourrie qui cassa. Le fil barbelé se détendit comme une corde de violon. Duane se baissa, prit Vite dans ses bras et d'un geste ample, le lança par-dessus la clôture aussi loin qu'il put. Le chien atterrit dans la troisième rangée de maïs, glissa sur le flanc et gratta le sol pour essayer de se relever. Duane n'avait pas le temps de le regarder faire. Il attrapa un piquet pour s'aider à grimper. toute la clôture oscilla, plia. Le fil barbelé lui entama profondément la main gauche et son pied, trop gros, resta coincé dans une des mailles du grillage. Le camion remplit le paysage, une masse de métal rouge s'approchant à toute allure. Il était à moins de 3 mètres et fonçait, fauchant les piquets de la clôture. Duane laissa sa chaussure dans le grillage, sauta par-dessus bord en se griffant le ventre au barbelé, retomba lourdement dans la terre molle au bord du champ et fit un roulé-boulet haletant dans les tiges de maïs. Le camion les manqua, mais cassa le piquet sur lequel Duane avait pris appui. Duane se retrouva à genoux, éberlué, la chemise en haillons. Du sang coulait des égratignures de son ventre sur son pantalon. Ses mains étaient à vif. Le camion retourna sur la route. Duane voyait les feux des freins luire comme des yeux rouges à travers la poussière. Il chercha vite du regard, l'aperçut, toujours inerte, deux rangées de maïs plus loin, puis se retourna. Le camion faisait lourdement demi-tour en s'approchant au maximum du fossé opposé. Les roues arrière tournèrent dans le vide et Duane entendit les gravillons crépiter sur le maïs. Le camion recula, trembla lorsqu'il passa le petit fossé, puis tourna son long capot en direction de Duane et revint à la charge. Chancelant, Duane écarta les tiges de maïs pour arriver jusqu'à vite, souleva le chien inerte et s'enfonça dans le champ. Le maïs lui arrivait à la taille, et dans cette direction, il n'y avait que ça, sur plus d'un kilomètre, puis une autre clôture et quelques arbres. Duane continua à avancer, sans même prendre le temps de se retourner en entendant le camion franchir le fossé, briser un piquet, accrocher un morceau de clôture et écraser sous ses roues et son pare-choc les tiges de maïs.
« Il a plu il y a 2 jours, » pensa Duane. « Seulement 2 jours. La couche superficielle est sèche, mais en dessous, c'est de la boue. Mon Dieu, faites que ce soit de la boue !»
Le camion était derrière lui dans le champ maintenant. Duane entendit le grincement des vitesses. Il avait l'impression d'être poursuivi par un énorme animal enragé. L'odeur de charogne empestait l'air. Il continua. Peut-être devrait-il s'arrêter et faire face, esquiver à la dernière minute comme un matador, essayer de se retrouver derrière le véhicule ou lancer une pierre sur le pare-brise. Mais il n'avait pas l'agilité d'un matador et comment esquiver au dernier moment avec vite dans les bras? Il continua. Le camion était à 15 mètres derrière lui, puis 10, puis 5. Duane essaya de courir, mais il ne réussit qu'à marcher à grands pas. La rangée de maïs qu'il venait de traverser était humide et large. C'était en fait un fossé d'irrigation grossier. Il ne ralentit pas. Derrière lui, le rugissement du moteur et des roues labourant le sol se transforma en un gémissement, puis un hurlement. Duane jeta un coup d'œil derrière lui. Le camion était tout de guingois, sa roue arrière patinait, projetant de l'eau et des brindilles. Le garçon poursuivit sa route, écartant d'un coup de pied les tiges qui menaçaient de griffer les yeux de vite. Quand il se retourna une seconde fois, le camion était à 30 mètres derrière, toujours penché, mais oscillant d'avant en arrière, embourbé. Duane fixa du regard l'horizon des champs au nord et continua d'avancer. Au-delà de cette clôture se trouvait le pâturage des Johnson, et derrière des bois jusqu'à la taverne, puis des collines et une profonde vallée où coulait la rivière.
Encore 10 rangées, et je me retourne.
Il était en nage, et la sueur se mélangeant au sang et à la poussière le démangeait atrocement entre les omoplates. Vite remua faiblement, agitant les pattes comme il l'avait toujours fait lorsqu'il rêvait de chasse aux lapins ou à quelque chose de ce genre, puis il se laissa aller, comme s'il comptait sur son maître pour faire tout le travail.
8 rangées. 9.
Duane se retourna. Le camion s'était dégagé et roulait à nouveau, mais en marche arrière. Il reculait, sortait du champ en cahotant. Duane ne s'arrêta pas pour autant. Il marchait d'un pas lourd en direction de la clôture, à moins de 20 mètres maintenant. Il continua même quand il entendit le crissement des roues sur le gravier de la route, le grincement du changement de vitesse, le ronflement du moteur qui accélérait.
« Il n'y a pas de route par ici. Pas moyen de me couper le chemin. Je peux rentrer chez moi si je reste dans les bois, si j'évite les routes et les chemins. »
Il atteignit la clôture, déposa doucement vite de l'autre côté et s'égratigna de nouveau en l'escaladant. Puis il s'autorisa à souffler un peu. Il s'accroupit près du chien, les mains entre les cuisses, hors d'haleine, écoutant le battement du sang dans ses oreilles. Puis il se leva et regarda derrière lui. Le château d'eau se détachait nettement sur le ciel, et 500 mètres derrière, il apercevait les grands arbres d'Elmhaven. La route était déserte, silencieuse. Seul le nuage de poussière qui retombait lentement et la clôture arrachée à l'autre bout du champ témoignaient de la réalité de ce qui venait de se passer. Il s'agenouilla près de Vite et lui caressa le flanc. Le colis ne bougea pas. Il avait le regard vitreux. Duane appuya sa joue contre les côtes du chien, retenant son souffle pour entendre les battements de son cœur. Rien. Duane caressa le fin museau, le pelage plus court du sommet de la tête, essaya en vain de lui fermer les yeux. Il resta à genoux, un gros poids de douleur sur la poitrine, mais cela n'avait rien à voir avec ses écorchures et ses bleus. Sa douleur grandit, se gonfla, mais il ne put la ravaler ni éclater en sanglots. Il crut qu'elle allait l'étouffer et aspira l'air comme un poisson hors de l'eau, levant le visage vers le ciel maintenant bien bleu. Martelant le sol de ses mains saignantes, il promit à Vite et à Dieu, auquel il ne croyait pas, que ce crime ne resterait pas impuni. Mike O'Rourke et Kevin Grumbacher se retrouvèrent seuls à la réunion de la cyclopatrouille. Kevin, énervé, arpentait le poulailler en jouant avec un élastique, mais Mike ne se formalisa pas de l'absence de ses camarades. Il comprenait bien que par cette belle matinée d'été, ils aient autre chose à faire que d'assister à une réunion idiote. « Ce n'est pas grave, » dit-il du fond du sofa sur lequel il était vautré. « Je leur parlerai un de ces jours quand nous serons tous réunis. » Kevin s'arrêta, ouvrit la bouche pour répondre et la referma en voyant Dale et Lawrence faire irruption. Il n'était pas nécessaire d'être très observateur pour remarquer que Dale était bouleversé. Il roulait des yeux enfiévrés et ses cheveux se dressaient hirsutes. Lawrence aussi avait l'air ému.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
Dale s'accrocha à l'encadrement de la porte et essaya de retrouver son souffle.
« Duane vient de m'appeler ? Van Syke a essayé de le tuer ?»
Mike et Kevin le regardèrent sans comprendre.
« C'est vrai !»
haleta Dale.
« Il m'a appelé juste au moment où les flics arrivaient chez lui. Il a été obligé de prévenir son père à la taverne de Carl pour qu'il revienne, puis il a téléphoné à Barney. » Il pensait que Van Syke allait peut-être passer à la ferme pendant qu'il attendait son père, mais il ne l'a pas fait. Puis son père est rentré. Il ne le croit pas complètement, mais son chien est mort. Enfin, ce n'est pas vraiment Van Syke qui l'a tué, mais d'une certaine façon si, parce que...
Arrête ! Cria Mike. Dale se tut. Mike se leva.
Commence par le début. Fais comme si c'était une des histoires que tu racontes autour du feu de camp. Duane n'est pas blessé ? Et comment est-ce que Van Syke a essayé de le tuer ?
Dale se laissa tomber sur le sofa que Mike venait de quitter. Lawrence trouva un coussin sur le sol. Kevin resta figé au même endroit, comme pétrifié. Seules ses mains continuaient inconsciemment à jouer avec son élastique.
« D'accord, » reprit Dale. « Duane vient de m'appeler. Il y a environ une demi-heure. Van Syke, du moins, il pense que c'est Van Syke, mais il ne l'a pas vraiment vu. » Bon, un homme au volant du camion d'écarissage de Van Syke a tenté de l'écraser dans Jubilee College Road, pas très loin du château d'eau.
« Mon Dieu !»
murmura Kevin. Mike le foudroya du regard et il se tut. Dale continua le regard un peu vague en essayant de se concentrer sur son récit. Il commençait juste à comprendre les implications de ce qui venait de se passer.
« Duane dit que le camion a essayé de l'écraser sur la route ?» et qu'ensuite il a arraché la clôture et l'a poursuivi dans un champ de maïs. C'est à ce moment-là que son chien est mort.
« Pauvre vieux Vite !»
soupira Lawrence. Lorsque les deux frères allaient à la ferme de Duane, Lawrence passait des heures à jouer avec le collet.
« Duane a été obligé de revenir chez lui en passant par les champs des Johnson et les bois. Et le plus étrange, c'est que... »«
Quoi donc ?» demanda Mike à voix basse.
« Le plus étrange ?» C'est que Duane a porté son chien jusqu'à la maison. Il ne l'a pas laissé dans le champ, où il aurait pu revenir le chercher plus tard.
Lawrence acquiesça d'un air approbateur.
C'est tout ce qu'il t'a dit ?
Insista Mike.
Il n'a pas dit pourquoi Van Syke aurait pu décider de s'en prendre à lui ?
Dale hocha la tête.
Il faisait rien de mal. Il marchait le long de la route. Je l'avais appelé pour le prévenir de la réunion. Il est sûr que le conducteur du camion n'a pas fait ça pour s'amuser. Pas comme quand Congdon ou un de ses trous du cul... »
Il s'interrompit, jeta un bref regard à son petit frère et se reprit.
« C'était pas comme quand un de ces vieux crétins fait semblant de nous foncer dessus pour nous faire peur. »
L'homme qui était au volant du camion a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour les écraser, lui et vite.
Mike, songeur, hocha la tête. Dale lissa la mèche de cheveux relevés sur son front.
Il a raccroché parce que Barney venait juste d'arriver.
Il t'a appelé de chez lui ?
Demanda Kevin en lâchant brusquement son élastique.
Ouais. Ça a un rapport avec ce que tu voulais nous dire ?
Demanda Kevin en regardant Mike.
O'Rourke sortit de sa rêverie.
Peut-être. Allons-y.
Où ça ?
Demanda Lawrence qui mâchonnait la visière de sa casquette. Mike eut un petit sourire.
À ton avis, où est-ce que Dwayne va emmener Barney et son père ? Si le camion l'a poursuivi dans un champ, il y a sûrement des traces de son passage.
Les quatre garçons se ruèrent sur leur vélo. Barney se trouvait sur les lieux. Sa Pontiac verte, sur les portières de laquelle on pouvait voir l'inscription dorée un peu décatie « Paul Se », était garée au bord de la route, ainsi que le pick-up de Martin McBride et la Chevrolet noire de Congdon. Dwayne et son père se tenaient devant le trou dans la clôture. Le garçon parlait doucement en désignant les profondes ornières dans le champ. Barney prenait des notes dans un petit carnet et Congdon fumait son cigare d'un air agressif comme si c'était Dwayne le suspect. Dale et les autres freinèrent et s'arrêtèrent à 10 mètres du groupe. Congdon cessa de prêter attention aux explications de Dwayne, cracha par terre et cria aux enfants de partir. Mais ils ne bougèrent pas d'un pouce.
C'était maintenant le père de Dwayne qui parlait.
« Vous avez vraiment intérêt à l'arrêter, Howard !»
Le vrai nom de Barney était en effet Howard Seals.
« Cet abruti a essayé de tuer mon fils !»
Barney écrivit quelques mots, puis il dit
« Écoutez, Martine, nous n'avons pas vraiment la preuve qu'il s'agit bien de Carl Van Sack. Votre fils lui-même dit qu'il ne l'a pas bien vu. »
Se hâta-t-il d'ajouter avant que Martin McBride n'explose à nouveau. Congdon fit alors passer son cigare de l'autre côté de sa bouche et déclara
« C'était pas Carl !»
Barney retira sa casquette et fronça le sourcil.
« Comment le savez-vous ? »
Congdon changea à nouveau son cigare de côté, puis regarda Dwayne et son père de haut, comme s'ils étaient deux spécimens de petits blancs, catégorie dont un shérif ne s'abaisse pas à s'occuper.
« Je le sais parce que j'ai passé la matinée avec lui !»
Il ôta son cigare de sa bouche, cracha par terre et ricana. Ses dents avaient à peu près la même couleur que son barreau de chaise.
Carl et moi, on était à la rivière en train de taquiner le goujon.
C'est généralement Van Sack qui conduit le camion d'écarissage,
objecta Barney d'une voix neutre.
J'ai vérifié auprès de Barry Dessinger. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas conduit une seule fois cette année.
Congdon haussa les épaules et recracha par terre.
Carl m'a appris ce matin que le camion avait été volé cette nuit, alors qu'il était garé près de l'usine de Suif.
L'usine de Suif, un vieux bâtiment déglingué, était situé au nord du silo désaffecté sur la route de la décharge à ordures. Avant qu'elle soit elle aussi abandonnée, c'était là qu'on apportait tous les cadavres d'animaux. Le coin continuait encore à empester et quelquefois on en sentait l'odeur jusque chez Arlène, au nord de la ville. Barney se gratta le menton.
Pourquoi n'avez-vous pas déclaré le vol, alors ? Ou bien Carl ?
Comme je vous l'ai dit, j'étais occupé. De plus, j'ai pensé que c'était juste un coup de ces sales morpions. Comment savez-vous que c'est pas ces petits merdeux qui ont fait ça ?
Ajouta-t-il en montrant le groupe de garçons toujours juchés sur leur vélo. Barney lança vers eux un regard impassible. Congdon éleva la voix et désigna Dwayne du doigt.
Et qui vous dit que ce gosse n'est pas dans le coup ? Et qu'il n'était pas en train de faire l'imbécile avec ses copains ? Et maintenant, ils nous font perdre notre temps et nous racontent des salades alors qu'ils ont perdu le contrôle du véhicule et ont arraché la clôture des Summerson, plus tout le reste !»
Le visage congestionné, plus violet que rouge, le père de Dwayne enjambra les débris de clôture.
« Mais bon Dieu, Congdon, espèce d'enfoiré, de capitaliste de merde ! Vous savez bien que mon fils n'est pas responsable, pas plus qu'aucun de ses gamins ! Quelqu'un a essayé de le tuer, de l'écraser. Et à mon avis, vous êtes en train de protéger ce misérable de semblant d'australopithèque appelé Van Sack parce que vous êtes tous les deux mouillés dans cette affaire. C'est vous qui avez volé le camion exactement comme vous volez ces malheureux automobilistes soi-disant coupables d'excès de vitesse que vous traînez au tribunal pour financer vos bières.
Barney s'avança entre les deux hommes et posa la main sur l'épaule du père de Dwayne. Il avait dû mettre plus de force qu'il ne semblait, car McBride pâlit, se tut et se détourna.
« Qu'il aille se faire foutre !»
dit Kangden en marchant à grands pas vers sa voiture.
« Dites à Carl de passer me voir !» cria Barney.
Sans même un signe de tête, Kangden monta dans sa Chevrolet, claqua la portière et démarra sur les chapeaux de roue. Martin McBride discourut encore quelques minutes en faisant de grands gestes en direction du champ de maïs, éleva un moment la voix, puis continua à parler d'un ton pressant tandis que Barney prenait des notes. Durant cet épisode, Dwayne était resté dans le champ, quelques pas en arrière, les bras croisés et le regard indéchiffrable derrière ses grosses lunettes. Quand son père et le policier retournèrent sur la route pour discuter, les enfants posèrent leur bicyclette et franchirent le trou dans la clôture.
« T'es pas blessé ?» demanda Dane.
Il aurait voulu lui mettre la main sur l'épaule, le serrer contre lui, mais ça ne se faisait pas. Dwayne hocha la tête.
« Il a vraiment tué vite ?»
demanda Lawrence d'une voix tremblante.
« Ouais. Le cœur de vite s'est arrêté de battre, »
expliqua Dwayne.
« Mais quelqu'un a vraiment essayé de t'écraser ?»
insista Kevin. Dwayne acquiesça. Son père l'appelait. Il décroisa les bras et dit tout bas.
« Il se passe des choses bizarres. Je vous en parlerai plus tard dès que j'aurai l'occasion de venir vous voir. »
Il retraversa d'un pas lourd la clôture arrachée et rejoignit son père. Barney lui dit quelques mots, lui posa la main sur l'épaule.
« Je suis désolé, mon garçon, pour ton chien. »
Puis le policier parla gravement avec McBride, comme s'il lui conseillait d'être prudent, remonta dans sa Pontiac et partit en prenant soin de démarrer en douceur de façon à ne pas asperger les autres de poussière et de gravier. Dwayne et son père contemplèrent une dernière fois le champ, montèrent dans le pick-up, firent demi-tour et disparurent en direction de la 6. Dwayne n'adressa pas un signe d'adieu à ses copains. Les quatre garçons restèrent un peu plus longtemps, donnant des coups de pied dans les ornières boueuses et les saignées de maïs écrasées, regardant autour d'eux comme s'ils s'attendaient à voir le fantôme de Vite.
Et si le camion d'écarissage revenait ?
Demanda Kevin en contemplant les champs déserts, le ciel de nouveau couvert, la route vide. 5 secondes plus tard, ils pédalaient comme des dératés en direction de la ville. Dale ralentit un peu pour éviter de distancer Lawrence, mais la petite bicyclette dépassa la sienne, celle de Kevin et le vieux vélo rouge de Mike, si vite qu'il put à peine la voir. Ils ne ralentirent qu'une fois en sécurité sous les ormes et les chaînes d'Elm Haven. Alors seulement, ils lâchèrent leur guidon sans toutefois cesser de pédaler. Ils suivirent Depot Street, passèrent devant chez Dale et Old Central et s'arrêtèrent dans le talus près de la maison de Kevin. Là, ils se laissèrent tomber dans l'herbe fraîche et essayèrent de reprendre leur souffle. Leurs cheveux étaient emmêlés et humides de transpiration.
« Eh !»
halta Lawrence dès qu'il put parler.
« C'est quoi un capitaliste ?»